Bonsoir. Le député d'Élise Sanga, membre de la plateforme Alternance pour la République, a introduit hier un amendement pour la réduction sensible des émoluments des députés afin de les ramener à la hauteur du salaire des secrétaires généraux pour réduire les inégalités salariales déplorées en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion de l'examen et adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cependant, la plénière a rejeté cet amendement de Délice Sanga, estimant que les élus du peuple ne devraient pas seuls subir des réductions du train de vie des institutions. Quelle lecture faire de ce débat? C'est le thème de l'émission de ce soir et pour en parler, nous accueillons Délice Sanga, députée nationale et cadre de la plateforme Alternance pour la République. Délice Sanga, bonsoir.
Bonsoir.
Dieudonné Mwenze, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Donat.
Député national honoraire et membre du Conseil national du PPRD, vous êtes également communicateur de la plateforme Front commun pour le Congo FCC. Et enfin, Israël Moutala, journaliste, analyste politique et économique. Israël Moutala, bonsoir. Israël Moutala, qui n'est pas encore en ligne, mais qui devrait nous rejoindre dans les secondes qui suivent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Poursuite hier mercredi à l'Assemblée nationale de l'examen et adoption article par article du règlement intérieur, Délice Sanga de l'Alternance pour la République de Moïse Katumbi a à cette occasion introduit un amendement pour la réduction sensible des émoluments des députés pour les ramener à la hauteur du salaire des secrétaires généraux afin de réduire les inégalités salariales déploré en République démocratique du Congo. Cependant, la plénière a rejeté cet amendement, estimant que les élus du peuple ne devraient pas seuls subir des réductions du train de vie des institutions, d'où la déception de l'auteur de cet amendement. Délice Sanga regrette que les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ne sont pas engagés à consacrer l'essentiel de l'effort national à la reconstruction du pays. Délice Sanga au micro de Michel.
Il faut savoir que le fonctionnement de nos institutions consomme l'essentiel des ressources publiques. Aujourd'hui, quand vous prenez rien que l'exécution du budget de l'année dernière, vous verrez que pratiquement 70% de ressources vont à payer les salaires et assurer le fonctionnement des institutions. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas les moyens pour faire les investissements pour l'avenir, construire les écoles, les centres de santé, les routes et développer ce pays pour son avenir. On ne peut pas consacrer toutes nos ressources à faire fonctionner les institutions. Le deuxième élément, c'est que les salaires trop élevés dans la sphère publique font qu'aujourd'hui, la politique attire vers elle tous les talents, y compris ceux qui relèvent de l'ivraie de la société. Tout le monde rêve de devenir politique, non pas pour servir, mais parce que la politique est la seule voie qui permet un enrichissement rapide. Et donc je voulais que l'Assemblée nationale donne le ton en assurant la réduction de son propre train de vie, celui des députés, et ensuite s'attaquer à ceux des autres.
Délice Sanga, député national et cadre de la plateforme Alternance pour la République, vous serez le premier à prendre la parole. On vient d'ailleurs de vous écouter. D'entre deux jeux, Délice Sanga, puisque vous avez posé le problème, combien touche vraiment actuellement un député national et combien vouliez-vous qu'il touche désormais selon votre proposition?
Bon, si vous prenez la législature passée, parce que celle-ci on n'a pas encore fixé, avant la dévaluation, tout avantage confondu, les députés étaient aux alentours de 13 000, ce que je trouve quand même assez scandaleux. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est ramener les choses dans leur juste proportion. Et si je fais cet amendement, c'est parce que je constatais trois choses qu'il faut combattre. La première, c'est l'inflation des salaires et des avantages dans la sphère politique et qui fait que finalement tout, y compris les déchets de la société, au sens où la politique aujourd'hui attire tout et ça avilit même la fonction politique. Deuxième constat que j'ai fait, c'est que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas la notion de limite. Vous avez vu, le gouvernement de Tshibala, à la sortie, a signé une série de décrets qui accordent presque à vie aux anciens ministres des avantages indus, insupportables pour un pays qui est en crise. Et le troisième élément, c'est le spectacle indécent de corruption auquel nous avons assisté avec les élections en province, qui fait finalement que le monde politique aujourd'hui, plutôt que de s'occuper de l'intérêt général, a versé dans les travers de la démocratie l'enrichissement des élus, les salaires exorbitants, des avantages qu'on ne sait plus limiter, et chacun y va de sa sauce. Et quand vous regardez le niveau d'exécution du budget sur rien que 2018, mais vous regardez aussi avant, vous verrez que les dépenses courantes de l'État nous ont amené à 78% à peu près, et sur lesquelles vous avez 55% des dépenses qui concernent les salaires et le fonctionnement des institutions politiques. Dites-moi, dans un pays comme le nôtre, comment et quand est-ce que nous allons nous occuper de la population pour transformer l'économie de ce pays, pour transformer son fonctionnement, afin que nous puissions y aller. Il ne faut jamais oublier l'histoire que les Belges, par exemple, sous les 80 ans de la colonisation, s'ils ont été aussi efficaces dans la mise en place des infrastructures, c'est parce que, entre autres, ils étaient tournés sur l'exploitation de la colonie et sur sa compétitivité, et que les structures administratives et politiques n'étaient pas aussi pesantes sur le budget de la colonie. Je crois que ce qui a marché par le passé doit pouvoir nous inspirer pour l'avenir, et il faut une dose de modestie. Je suis gêné, dans un pays qui est en insécurité, de voir que le soldat de première classe va toucher moins de 100 dollars et quelqu'un qui s'est dit être élu national est à des niveaux stratosphériques des rémunérations.
Délice Sanga.
Et ça, c'est insupportable.
Oui, Délice Sanga, votre demande a été aussitôt rejetée par l'Assemblée nationale. Vous dites gêné, vous dites que vous êtes aussi déçu par cette décision. Mais apparemment, Délice Sanga, vos collègues n'ont pas, apparemment, refusé la réduction de leur salaire, mais ils vous proposent plutôt de poser le problème pour toutes les institutions. Vous comptez introduire cette demande pour l'ensemble des institutions ou pas?
Bon, d'abord, ils posent mal le problème. Il faut savoir qu'en matière budgétaire, l'Assemblée, c'est l'autorité budgétaire, c'est elle qui décide des allocations. Et si vous voulez que l'Assemblée nationale soit dans une position et a la force morale de demander de l'effort aux autres, il faut qu'elle-même soit exemplaire. Il faut que l'Assemblée nationale montre la voie. Ce dont les collègues parlent, c'est de pouvoir aller faire encore des combines, discuter avec le gouvernement. Vous me donnez ça, moi je vous laisse ça. Mais à chaque fois, ce sont des avantages exorbitants. Ce n'est pas normal. Je crois qu'il y a une fin à tout et il y a une limite à certaines choses. On ne peut pas accepter que dans un pays où nous avons les taux le plus élevé de la pauvreté. Vous savez que le dernier rapport qui a été fait a montré que vous prenez le Nigeria et la République démocratique du Congo, nous représentons une part substantielle des pauvres dans le monde. Et ça, c'est inacceptable. Et si nous voulons résoudre ce problème-là, il faut que les gens aient le sens du sacrifice en commençant par soi. Si le Parlement n'a pas fait cet effort, il ne sera jamais en mesure de pouvoir exiger cet effort de la présidence de la République, du gouvernement et des autres structures de l'État.
Alors,
voilà où la méthodologie proposée par les collègues est un rejet et ne constitue pas une alternative pour dire que toutes les institutions.
Alors,
je les attends, lorsqu'il y aura la loi des finances, de voir qu'ils vont aller dans le sens à faire l'effort pour que le train de vie de l'État soit réduite.
Alors, Délice Sanga, ce rejet n'est pas une première. Ce débat a déjà eu lieu et il y a eu un rejet dans le passé. Visiblement, vos collègues ne vous écoutent pas. Mais est-il possible, puisque vous vous sentez vraiment blessé de voir ces inégalités, est-il possible que, pour donner l'exemple à vos collègues, que vous renonciez vous-même à un bon montant de votre salaire parlementaire?
Renoncer, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que je vous annoncerai dans les jours qui viennent des mesures que je vais prendre par rapport à ça. Je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas un coup politique, il ne faut pas passer cela. Je crois qu'aujourd'hui, si les salaires n'étaient pas aussi élevés, il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'intérêt général, qui ne seraient pas attirés par la politique. Et je crois qu'il faut dépolluer l'espace politique de tous ces types d'individus qui viennent et qui plonge le pays dans des systèmes que la population retrouve malheureusement totalement. On a vu aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un dernier exemple.
Merci.
Vous savez, quand on dit, nous avons un Sénat de 100 membres, une Assemblée de 500, plus de 800 députés à peu près, provinciaux. Toute cette classe politique, on a dit, on va assurer la représentativité. Mais on vient de voir un autre phénomène qui est, où quelqu'un va solliciter 3 mandats ou 4 mandats pour pouvoir les céder à la femme, à la copine, à la fille, ainsi de suite.
Merci.
Et donc, au-delà de la corruption, au-delà des niveaux de salaire élevés, aujourd'hui, on assiste à un clientélisme honteux et qui fait que ces inégalités ne vont que croître. Et dans ces conditions, nous courons le risque qu'à défaut de se transformer en interne, la population se soulève contre les institutions pour pouvoir chasser tout le monde parce que ceci devient inacceptable.
Merci de toutes ces informations que vous venez d'échanger avec nous, Délice Sanga. Nous reviendrons à vous dans un moment. Dieudonné Mouinzé, député national honoraire, parce que vous êtes un ancien député et membre du Conseil national du PPRD. Vous êtes également communicateur de la plateforme Front commun pour le Congo. Pourquoi, selon vous, l'Assemblée nationale a une fois de plus rejeté cette proposition de réduction du train de vie, de son train de vie?
Merci, M. Donnant, pour la question qui est pratiquement très importante, mais acceptez que je puisse saluer l'honorable Délice Sanga, que je connais bien, et également l'analyste Israël Moutala, avec qui nous débattons d'un sujet important qui concerne la vie de la nation. Pourquoi les députés ont rejeté? D'abord, je voudrais rappeler à l'opinion que la démarche de l'honorable Sesanga est une démarche tout à fait correcte et qu'il faut l'appuyer. En tout cas, je n'ai pas de honte à le dire, puisque cette démarche rentre dans les prescriptions de la Constitution, surtout en son article 58, qui prévoit que tous les Congolais ont le droit de jouir des recettes nationales, mais également l'État a l'obligation, a le devoir de redistribuer les recettes équitablement et garantir les droits au développement de tous les Congolais. Je crois que cette base juridique et constitutionnelle permet à quiconque de pouvoir comprendre que les recettes de la République doivent être réparties ou redistribuées de manière équitable afin de permettre à tout Congolais de jouir de manière convenable. Mais je crois qu'il faut aussi revenir à la disposition de la même constitution, je crois que c'est l'article 109, si j'ai encore bon souvenir, alinéa 2 je crois, et même l'alinéa 4, le dernier alinéa, qui prévoit que les parlementaires en général ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Nous sommes tout à fait d'accord. On parle de tous les parlementaires, sénateurs comme députés nationaux, mais aussi le dernier alinéa qui prévoit que les autres avantages doivent être prévus dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres. Et là, nous sommes réellement dans les discussions sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il est normal qu'un tel cas soit soulevé. Et je suis personnellement sidéré d'apprendre de l'honorable Délice Sanga, avec qui nous avons été ensemble dans la législature 2006-2011. Je crois qu'il n'a pas eu de honte à pouvoir également citer les montants de ses émoluments. 13 000 $. Je crois que c'est un peu trop. Il va se rappeler, puisqu'il n'y a pas aussi de honte à pouvoir le cacher. Ce sont des émoluments que nous avions touchés à son temps. Lui, l'honorable M. Sanga et moi, à l'hémicycle, c'est à peine qu'on arrivait à 6 000 $ pour la législature 2006-2011. Et je crois que ça soulevait déjà des tollés dans le public que l'on ne pouvait pas avoir des salaires tout à fait colossaux comme ça et ne pas permettre à ce que les autres couches sociales puissent bénéficier des mêmes avantages, du moins plus ou moins. Puisque lorsque l'on parle d'équitable, ça veut dire que ça ne peut pas être égal. Et effectivement, on tient compte de la position sociale de tout un chacun. Mais quant à augmenter ces émoluments entre des législatures consécutives, puisqu'il parle de la dernière législature, 2011-2016, disons jusqu'à 2018, aller jusqu'au plus du double de ces émoluments, je crois que c'est un peu trop, une augmentation de plus de 100%. Et si toutes les choses se comportent de la même manière, donc toutes choses restant égales par ailleurs, et dans, à la limite dans le comportement asymptotique, il faut avouer, il y a à craindre que l'augmentation soit la même, plus ou moins, c'est-à-dire aller jusqu'au plus, à plus de 20 000 $ pour un député national ou pour un parlementaire. Et il faut également souligner que depuis notre législature, nous étions en train de fustiger le fait que le député national touchait légèrement moins par rapport au sénateur. Si lui, l'honorable Delice Sanga, évoque le cas de 13 000 $, je suppose que pour la législature qui termine, puisqu'on n'a pas encore installé les sénateurs qui ont été élus dernièrement, donc les sénateurs doivent être au-delà de 13 000 $, peut-être à 15 000, 16 000, 17 000. Je crois que c'est vraiment faramineux que l'on ne peut pas encourager un tel comportement. Mais je voudrais aussi souligner que la démarche elle est bonne, mais j'ai la crainte que l'exploitation faite par l'honorable Delice Sanga puisse être une exploitation politique ou soit un charme simplement pour séduire l'opinion ou séduire ses électeurs. Mais s'il croit en ce qu'il fait, qu'il dit réellement, non, je crois qu'il faut appuyer la démarche, puisque nous avons la documentation. Lorsque l'on fait la reddition des comptes d'un exercice budgétaire, on se rend compte que la rémunération simplement des membres des institutions, plus le fonctionnement de ces institutions, nous sommes à plus de 2/3 du budget national. Non, je crois que c'est anormal. Nous ne pouvons que soutenir. Je crois que la démarche elle est bonne, mais les députés ont refusé, peut-être pour dire qu'ils ne voudraient pas être les dindons de la farce, c'est-à-dire que l'on commence par réduire le train de vie de leur institution et qu'à la fin, les autres institutions puissent rester, garder le statu quo et ne pas pouvoir bouger. Et là, je crois que ça serait une injustice que peut-être par prudence, les députés nationaux voudraient éviter. Mais je suis d'accord qu'il faudra que l'élu national puisse comprendre qu'il ne doit pas vivre au-dessus tellement par rapport à ses électeurs et laisser les autres en dessous de toute considération. Mais je voudrais également dire à l'honorable Sissanga, je ne sais pas sur base de quoi il s'est référé à un secrétaire général ou au salaire d'un secrétaire général. Et je crois que ça pouvait peut-être être un peu plus ou même un peu moins. Mais pourquoi il prend comme plancher, comme mesure, le salaire du secrétaire général? Je pense que c'est un débat qui intéresse l'opinion et qu'il faut que le parlementaire qui est l'élu de la société puisse comprendre qu'il ne peut pas être au-dessus, vivre tellement au-dessus par rapport à ce militaire qui a peine à peut-être 100 $ au moins, par rapport à ce policier ou fonctionnaire de l'État enseignant. Je crois que c'est anormal et c'est injuste.
Dieu de Nemours et merci. Je note que vous rejoignez en grande part l'honorable Edith Sanga dans sa démarche et que vous mettez quelques bémols, notamment sur le montant des salaires. Je pense que c'est un débat qui reste ouvert vu que les salaires sont des matières privées et que c'est toujours difficile à quelques virgules près de situer les salaires. Mais quand vous relevez le fait, l'argument avancé par les députés nationaux actuels, l'argument avancé par ces députés, Dieu de nos moins, il semble ne pas tenir beaucoup parce que tout citoyen, pour des raisons de moralité, de justice, de solidarité, peut renoncer à des avantages que ses autres concitoyens n'ont pas. Partout dans le monde, hein, les cas je peux vous en citer, partout dans le monde, des élus renoncent à leur train de vie par solidarité ou par solidarité à leurs électeurs. Allô, Dieu de Demouinze?
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous avez suivi la petite réplique que je viens d'annoncer, d'échanger partout dans le monde, hein, les cas sont légion, les députés et les élus renoncent à une bonne partie de leurs émoluments. Donc l'argument avancé par les députés semble pas très solide, non? Bon, Dieu de Nemouinze, nous reviendrons à vous. Visiblement, vous n'avez pas la même communication que nous. Israël Moutala, journaliste, analyste politique et économique, que pensez-vous de tout ce débat? La réduction de train de vie des députés ou de l'élite politique de la République démocratique du Congo, de manière générale, est-elle, selon vous, nécessaire ou pas? On peut la faire maintenant ou plus tard?
Merci de la question. Je salue aussi l'honorable Sessanga, je salue l'honorable Dieudonné Nemouinze, député honoraire. C'est un débat très important. C'est un débat qui mérite absolument d'être soulevé en ce moment-ci, parce que je ne vois pas quel sera le moment favorable de le soulever si ce n'est pas celui-ci. Et donc tout leur mérite revient à l'honorable Sessanga pour ce débat. Il s'agit justement d'une question de justice sociale. On ne peut pas demander aux citoyens lambda de consentir des efforts pour essayer de tirer le pays de la pauvreté et ne rien demander justement à l'élite politique qui consomme près de 70% des ressources publiques. Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que sur le budget de 5 milliards de dollars à peu près en ressources propres, 3,5 milliards vont dans le fonctionnement et dans les rémunérations, le fonctionnement de l'État et les rémunérations de l'élite politique. C'est inadmissible. À cette allure, on ne peut pas se développer. Il faudrait absolument qu'on ramène dans des proportions raisonnables le train de vie de l'État. Donc il faut une véritable cure d'amaigrissement à l'État, de l'État, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il n'y a pas à tergiverser cette question. Et donc, moi je suis totalement solidaire et d'accord avec l'initiative de l'honorable Sessanga. C'est vrai qu'en réduisant les salaires des émoluments des députés, il n'y aura pas assez d'économies, mais c'est un devoir d'exemplarité pour que toutes les institutions puissent s'aligner là-dessus, ainsi de suite. On a dit tout à l'heure que voilà, le personnel politique, il y a à peu près 800 députés provinciaux, 500 députés nationaux, à peu près 109 sénateurs. Vous avez les membres du gouvernement avec leur cabinet. Le gouvernement, c'est à peu près une cinquantaine de personnes. Leur cabinet. Vous avez les gouvernements provinciaux, 10 ministres par gouvernement provincial maximum, avec leur cabinet. Vous avez le cabinet du président de la République avec des conseillers. Vous avez les membres du bureau de l'Assemblée nationale avec des conseillers. Bref, même les députés ont droit à un assistant parlementaire. Je pense que c'est énormément d'argent qui est dépensé justement dans les fonctionnements des institutions et dans les salaires, dans les émoluments. Il faudrait absolument qu'on revienne, qu'on remette ça dans des proportions raisonnables. Pour le bon, on parle du secrétaire général comme l'étalon. Oui, j'ai pu comprendre que l'honorable Sessanga voulait que ça ne puisse pas l'échelle, la différence entre ce que gagne le secrétaire général aujourd'hui et les députés ne soit pas une échelle de 1 à 10, mais plutôt de 1 peut-être à 5. Bon, c'était plus ou moins raisonnable, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas très bien combien gagne un député. Il y a des chiffres contradictoires, ça dépend de taux. Il y a d'autres qui avancent le chiffre de 4 000, d'autres avancent le chiffre de 11 000 ou 12 000. Il y a un problème de taux, il faut qu'on harmonise les chiffres. Mais c'est une question importante. Il faudrait absolument que les salaire des députés soit en phase avec la vie sociale des Congolais. Sinon, un jour, le peuple risque de se révolter. C'est ce qui alimente aussi l'incivisme fiscal. C'est ce qui alimente aussi cette présomption de vol. Quand les Congolais disent que les hommes politiques sont tous des voleurs, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ont des salaires indécents qui n'ont rien à voir avec la réalité du Congolais. Moi, je pense qu'un salaire digne et décent ne doit pas être réservé à une catégorie de Congolais, mais à tous les Congolais. Mais pour arriver à avoir un salaire digne pour tout le monde, il faudrait que ceux qui ont déjà des salaires élevés fassent un geste en baissant leur salaire, en attendant qu'on puisse rehausser les salaires de ceux qui sont justement considérés comme des laissés pour compte, à juste titre d'ailleurs. Voilà pourquoi moi j'estime que ce débat est un débat qui vaut la peine. Il faut qu'on le soulève, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, c'est aujourd'hui justement qu'il faut essayer de réduire sensiblement le temps de vie de l'État pour permettre de dégager des moyens pour la reconstruction de la RDC.
Alors Israël Muntala, deux questions en une, vu que le temps parfois nous fait défaut dans cette émission. Alors les députés nationaux disent que, en fait, si j'essaie de lire leur esprit, ils disent pas non. Mais ils disent que si cette question doit être abordée, elle doit être élargie à toutes les institutions. Vous pensez que c'est un bottage en touche ou bien c'est autre chose? Et toujours la deuxième question hein, à laquelle vous avez essayé de répondre en une. Jusqu'en 2006, le salaire des députés était de 1 500 $. Comment, selon vous, et pourquoi, selon vous, pensez-vous qu'on est passé comme ça de 1 500 à des sommes astrologiques qu'on évoque en ce moment?
Oui, c'est vrai. Lors de la première législature, après les négociations des Sun City, on était à des proportions justement de l'ordre de 1 500. Mais il y a eu, sous Caméré, il y a eu cette volonté justement de mettre les députés nationaux, je commence par la deuxième question, dans les meilleures conditions en termes de salaire, en termes de confort, pour qu'ils soient plus ou moins indépendants par rapport aux membres du gouvernement, que l'écart entre les membres du gouvernement et les parlementaires ne soit pas trop grand. Caméré avait estimé qu'il fallait augmenter le salaire des émoluments des députés nationaux. C'est comme ça que le salaire avait bondi. Mais il n'avait pas bondi dans les proportions qu'on a connues ces dernières années. Mais la tendance est venue justement de la législature de Vital Caméré. Mais pour revenir à la question des députés aujourd'hui qui ont renvoyé la question, moi je pense que eux, comme on l'a dit, ils proclament être l'émanation du peuple, ils proclament aimer ce pays, mais on ne peut pas aimer ce pays et avoir des salaires aussi indécents. Donc les députés nationaux ont des salaires qui avoisinent ceux de chefs d'État européens. Le président américain n'a pas plus de 15 000 $ le mois comme salaire, alors que c'est la plus grande économie. Les États-Unis ont un budget annuel qui dépasse le 3 000 milliards de $. Mais quand vous regardez la proportion du train de vie des institutions américaines par rapport à leur PIB, ça n'a aucune commune mesure avec nous ici et donc avec notre budget. Et donc il faudrait absolument que les députés comprennent que c'est vrai, il faut arriver à toutes les institutions, mais ça doit commencer par eux. Si eux, justement, qui sont l'autorité budgétaire, baissent leurs émoluments, ils auront l'autorité nécessaire pour, justement, imposer cet impôt à d'autres institutions, notamment la présidence de la République, notamment le gouvernement, et ainsi de suite. Mais si eux n'arrivent pas à le faire, ils n'auront pas, justement, assez de latitude pour le faire à d'autres institutions.
Merci, Israël Muntala. Nous revenons à vous dans un second temps. Je ne suis pas seul à poser des questions dans cette émission. Honorable Delice Sanga, vous allez réagir à l'ensemble de ce qui a été dit, mais avant, nous allons écouter pour vous cette question de Laurent.
Maître Laurent Otumbe, depuis Kinshasa, le problème ne se pose pas sur l'extravagance des émoluments des députés nationaux. À comparer avec le salaire de tous les fonctionnaires de l'État, effectivement, dans la balance, il se dégage que les députés nationaux soit en déséquilibre avec tous les autres fonctionnaires. Mais pour l'instant, la priorité n'est pas de diminuer les émoluments des députés parce que nous savons que dans le contexte de la pauvreté qui écume notre population, les députés ont beaucoup de responsabilités, notamment à l'égard des charges sociales, à l'égard de leurs bases respectives. Donc pour nous, les parlementaires doivent jouer un rôle très important pour que les caisses de l'État soient renflées par leur contrôle, qui aujourd'hui est presque au point mort, de telle sorte que la balance soit équilibrée entre les personnels politiques, particulièrement les députés nationaux, mais également toutes les autres couches de l'État, dont les fonctionnaires, les enseignants, les médecins et consorts.
Honorable Delice Sanga, Laurent semble rejoindre un peu la réponse vous donnée par les députés lors de la plénière.
Oui, il a sans doute raison que dans le contexte de pauvreté où nous sommes, il est difficile de de répondre à toutes les sollicitations. Mais ce n'est pas comme ça que l'on bâtit un pays de manière ordonnée. Nous le faisons parce que la solidarité nous incline à le faire. La proposition que je trouverais utile, parce qu'il faut remettre l'intérêt général au cœur de l'action politique, c'est-à-dire la rémunération du député doit être plus faible. En compensation, ce qui doit pouvoir être fait pour répondre à ça, on peut penser tout à fait que le budget d'investissement, je dois rappeler que sous l'exercice dernier, le budget d'investissement était de 6%, les dépenses en capital, c'est-à-dire moins de 10%. Donc avec ça, vous faites rien. Si on augmente le budget d'investissement et qu'on alloue à certains projets prioritaires dans chacune des circonscriptions des députés nationaux, ils auront au regard de la population un droit de suivi et puis une considération dans la société. Je ne crois pas à cette solidarité qui s'organise dans l'anarchie. Moi, je crois à une solidarité beaucoup plus organique, une solidarité qui se fait par la voie institutionnelle, par des mécanismes, par des structures qui fonctionnent et qui font que dans l'anonymat, les politiques publiques conduites par l'État produisent des effets de masse. Ce qu'il faut, c'est que pour avoir droit à quelque chose, il ne faut pas que quelqu'un connaisse un député. Il faut que quelqu'un soit tout simplement un citoyen. C'est comme ça que nous pourrons bâtir la République. Et pour y arriver, il faut arrêter avec le système actuel parce que c'est un système qui alimente la corruption et qui... On n'est pas dans la mesure. Au départ, en 2006, quand on est arrivé, le salaire du député était de 1300 ou 1500 dollars. Mmh. Bon, c'était raisonnable. On a dit on augmente pour donner du confort aux députés et pour le mettre à l'abri du besoin. Mais on a constaté que plus les salaires des députés augmentent, plus vous avez des scandales, plus vous avez des corruptions. Et quand on vous cite les montants qui sont en jeu parfois sur certains actes de corruption, ils sont en deçà des salaires que reçoivent les députés. Donc on ne résorbe pas la question de la corruption ou du confort de l'élu en augmentant inconsidérément son salaire. Il faut regarder les choses en face. Si ces pays, nous ne faisons rien pour pouvoir l'équiper à la dimension de sa démographie, nous sommes en train d'aller à la catastrophe.
Honorable Élise Sanga, je rappelle que, comme je disais tout à l'heure, de nombreuses élites politiques à travers le monde réduisent sans sourciller leur salaire quand il s'agit de faire solidarité avec le peuple. Je peux donner un exemple que tout le monde connaît probablement. Le président français sortant, François Hollande, a réduit son salaire plusieurs fois. Et les présidents français, selon les révélations du Monde que j'ai pu consulter avant cette émission, ne touchent pas plus de 15 000 dollars américains de salaire. Et justement, avant de vous poser ma question, il y a un maire français aussi, de Tours-du-Pin, je ne connais pas la région, mais j'ai lu sur Internet, réduit son salaire qui est de 2000 euros seulement à 1100 euros. Donc ça signifie qu'on n'a pas besoin des sommes astrologiques pour vivre et pour être à l'abri des besoins. La question que je vous pose, justement, vous avez proposé qu'on réduise du montant qui est payé actuellement à combien à peu près?
Bon, je pense que le salaire d'un député, s'il était aux alentours de 5 000, 4 000, serait pas ridicule. Moi, je suis issu du secteur privé. J'ai commencé ma carrière dans le secteur privé. Et je crois que les acteurs, ceux qui travaillent au quotidien, qui se lèvent tous les matins pour aller au travail, gagnent durement leur vie. Et vous avez des députés qui, pendant 5 ans, ne fait rien en termes de travail législatif et tout ça, c'est un assistant social qui est dans sa circonscription. Le peuple a aussi besoin de ce type de gens. Mais bon, cela ne justifie pas les salaires que l'on donne. Et le problème aussi, c'est la taille, le périmètre de notre système politique. Vous avez 834, je crois, députés provinciaux. Vous avez autant de gouvernements provinciaux. Vous avez des gouverneurs. Vous avez ensuite le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le président de la République, vous avez... Écoutez, quand vous mettez le train de vie de toute cette machinerie qui finalement ne produit que très peu pour la société, il y a de quoi se poser la question.
Merci, honorable Élise Sanga, pour équilibre de la parole. Je repasse la parole à Dieudonné Mouinzé. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous a finalement rejoint?
Oui, nous sommes là, nous sommes en ligne.
Alors, désolé, hein, la communication nous a coupé tout à l'heure, mais pour vous, il y a aussi cette question posée par Soumaïli.
Soumaïli David Moussafir, depuis la province du Maniema. Nous tenons à féliciter cet honorable député qui a compris qu'il siège à l'Assemblée, non pas pour ses intérêts personnels, mais pour ceux des autres. Son opinion est rejetée par la plénière, c'est parce que la plupart de ceux qui siègent au sein de l'Assemblée sont là pour accroître leur fortune. Si elles aussi étaient souciées de la population, ils devraient accueillir cette opinion dans la joie sans regarder à gauche ou à droite pour mettre d'abord en avant les intérêts de la population comme ils l'ont promis pendant la campagne électorale.
Deux de moins et.
Oui, je crois que là, notre compatriote Soumaïla Maniema est en train de soulever une question de principe. Le député national ou l'élu en général, il ne doit pas être celui qui lutte pour ses intérêts personnels, mais ça doit être celui qui est au service de la nation, de ses électeurs et de la population. Mais il s'est fait que actuellement, ce que l'on vit sur terrain est contradictoire avec ce principe énoncé par le compatriote Soumaïli. C'est-à-dire que, comme l'a soulevé tout à l'heure mon co-débatteur, c'est que vous êtes pratiquement dans une course effrénée de tous ceux qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir le plus rapidement possible et même des fois sans cause. Et je crois que là, ça pose un problème important. Mais je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure concernant la réserve émise par les députés nationaux. Nous devons rappeler que nous avons un Parlement bicaméral, nous avons deux chambres et que la question ne doit pas être simplement soulevée au niveau d'une seule chambre, sinon ça va créer un déséquilibre. Et je crois que c'est ce qui peut-être justifie la réserve ou la prudence qui a été observée par les députés nationaux. Puisque je me rappelle que lorsque nous étions dans cet hémicycle-là, et j'étais moi-même membre de la commission économique et président d'une sous-commission, et lorsque l'on dégageait ce que l'on appelait les recettes additionnelles et que l'on pouvait penser au train de vie de certaines couches sociales, on se rendait compte qu'on était pratiquement en opposition de point de vue avec les sénateurs. C'est-à-dire, à un certain moment, on était en divergence de point de vue et que c'était difficile de pouvoir répartir ces recettes additionnelles. Et je pense que c'est ça la crainte pour les députés nationaux qui pensent que soulever une telle question aujourd'hui dans un règlement intérieur simplement pour une seule chambre poserait un problème pour l'autre chambre qui n'est pas encore installée, mais qui viendrait demain ou après-demain et qui ne trouverait pas logique de pouvoir réduire son train de vie de la même manière que celui de l'Assemblée nationale.
Dieu de Moisé.
Ça pose un problème et j'aurais souhaité...
Dieu de Moisé.
Oui,
permettez-moi de réagir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour vous poser la question de l'indécence n'est pas une question collective nécessairement. Elle peut affecter les gens de manière individuellement. Je vous ai cité les cas, vous les connaissez, à votre niveau vous les connaissez sans doute, des élus à travers le monde qui réduisent d'eux-mêmes leur revenus pour question de solidarité et pour question de compatibilité avec les citoyens. Je viens de lire avant de présenter cette émission que l'actuel maire de Barcelone a réduit son salaire de 12 000 euros à 2 000 euros. Elle-même, ce n'est pas, il n'y a pas eu d'institution qui a réduit à sa place.
Oui, je crois que les cas tels que vous les soulevez, ils sont d'abord nombreux, et je sais bien, et peut-être que vous allez en Europe, il y a même en Afrique où il y a un président qui a dû carrément dissoudre une chambre du Parlement pour permettre à ce qu'il puisse dégager un peu de ressources pour le développement de son pays. Ça existe. Donc, moi, je voudrais qu'on comprenne bien la question. Est-ce que les députés se sont opposés à la réduction de leur train de vie? À ma connaissance, je n'ai pas entendu ça. Mais je crois qu'ils ont voulu que la question soit débattue à un autre niveau, ou peut-être à un autre moment. Puisque vous savez, il y a le budget 2019 qui va être présenté incessamment à l'Assemblée nationale. Ça fera l'objet de débats, puisque c'est là que l'on va pouvoir prévoir des lignes budgétaires pouvant permettre aux rémunérations de ces deux chambres. Mais bientôt aussi, le Sénat va être installé. Je crois que c'est un peu ça, toute cette question-là, qu'il faut pouvoir débattre à ce niveau. Mais moi, j'aurais même souhaité aller très loin en disant, lorsque l'on parle aujourd'hui de réunions interinstitutionnelles, je crois que c'est aussi le cas de soulever ce genre de problématiques, de dire que nous sommes dans une réunion
Merci.
Interinstitutionnelle où toutes les institutions sont représentées.
Merci.
Qu'est-ce que nous faisons de notre train de vie respectif par rapport à la misère qui frappe aujourd'hui le peuple congolais?
Merci, Dedeno Mwenze. Israël Muntala, pour vous, une question aussi, une réflexion mise sur la table par Bassa et Mampilo.
Bassa et Mampilo, depuis la ville de Lubumbashi. Je pense que l'honorable Delis Isanga, en introduisant un tel amendement, il savait au préalable que sa démarche allait subir une déconfiture totale. à mon avis. La plupart des politiciens congolais viennent dans la politique avec les égoïstes calculs de s'enrichir et de se faire des postes. Par conséquent, le peuple congolais, l'électorat perdant pour cette affaire.
Israël Moutala, votre réaction?
Bon, j'ai pas perçu très bien la question. La communication n'était pas très bonne.
L'auditeur semble réconforter un peu l'honorable Élise Sanga en lui disant que pour lui, cet auditeur pense que l'honorable Élise Sanga devrait savoir que sa proposition allait être rejetée.
Oui, justement, mais il ne faut pas être défaitiste. Il faut faire bouger les lignes. C'est un débat, c'est une question de vie ou de mort pour notre nation. Ça veut dire qu'il faudrait absolument que les niveaux de rémunération de nos élus soient compatibles avec nos ambitions en matière de développement. Il faut qu'on arrive à concilier les deux. Si on n'arrive pas à concilier les deux, on a tout faux. Donc je pense que le fil conducteur de la nouvelle gouvernance aujourd'hui, c'est quoi? Le peuple d'abord. Mais comment va-t-on y arriver si on ne met pas de côté les ressources pour justement construire plus d'écoles, plus d'hôpitaux, faire plus de routes, donner de l'eau potable, de l'électricité? Donc ça commence par là. Et moi, la question du... J'ai vu, on a dit, on voulait justifier aussi les rémunérations élevées des députés en disant qu'ils subviennent aux besoins de leurs électeurs dans leur circonscription. Non, ils doivent responsabiliser justement leurs électeurs à demander des comptes justement à leurs institutions locales. Je suis à l'EMBA, je dois demander des comptes justement au bourgmestre, quelles sont les taxes qui entrent à l'EMBA et tout ça. C'est le travail des députés de bâtir une nouvelle citoyenneté, de responsabiliser les citoyens. Parce que quand on voit un petit pont à gauche qui est cassé, on appelle le député. Non, il faut d'abord qu'on se pose la question que dans telle commune, ça relève de qui? C'est un pont qui relie deux quartiers d'une commune X, pas un député, forcément. Il faudra absolument que les députés fassent ce travail-là. Donc pour moi, c'est une question de vie ou de mort de la nation. Et donc ce débat est posé au moment opportun où on veut une rupture entre une certaine gouvernance et une nouvelle gouvernance qu'on aimerait plus vertueuse, plus lumineuse.
Alors Israël Moutala, dernière question, puisqu'on doit conclure, l'émission est presque terminée. De manière concrète, l'honorable Sesanga estime qu'autour de 4 000 $ pour les revenus des députés, ça devrait convenir. Vous, vous proposez à combien?
Bon, moi je parle du palier selon lequel si le plus haut fonctionnaire de l'État a 1 000 $, le fonctionnaire, bon c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'évaluations, si le plus haut fonctionnaire a 1 000 $ ou 1 500 $, que les députés aient le double ou le triple du plus grand du fonctionnaire, mais pas dans des proportions qui exagèrent cette proportion-là. Si le plus haut fonctionnaire de l'État, qui est le secrétaire général, a 1 000 ou 1 500 $ ou 2 000, voilà, que les députés aient au maximum le double,
On devrait arriver autour de maximum 5 000 $. Merci Israël Moutala pour cette proposition. Une question à laquelle Honorable Sesanga n'a pas répondu, mais on va lui demander de faire très très court. Pourquoi avoir choisi le secrétaire général comme plafond ou plancher de votre proposition?
Parce que le secrétaire général est le niveau le plus élevé dans l'administration. Il permettrait de créer un lien de solidarité entre la rémunération des politiques et la rémunération des administratifs.
Alors, maintenant que votre proposition n'a pas rencontré une suite favorable, qu'est-ce que vous comptez faire?
Nous allons continuer à nous battre à l'intérieur pour qu'on puisse y arriver, mais aussi réveiller la population qui doit comprendre que ce pays lui appartient, que le budget n'appartient pas aux élus, aux ministres et aux autres, et que s'ils veulent un avenir, ils doivent s'approprier ce type de thématiques. Très souvent, on nous accuse de ne pas nous occuper de la population, mais quand on s'en occupe, on ne voit pas la population monter au créneau.
Merci. Ça, c'est très important. Merci, Élise Sanga. Dieudonné Mwenze, en quelques secondes, vous n'étiez pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord sur les montants. Il n'y a pas le temps, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas d'accord sur les...
Non, je crois que la fourchette de 5 000, c'est passable.
Merci.
Je voulais convier pratiquement tous les animateurs des institutions pour qu'ils puissent emboîter le pas à l'initiative de l'honorable.
Merci Dieudonné Mwenze. Willem Lungamba à la technique, Guy Maté et Kelly Ngouté à la réalisation, Dona Madimba Simon à la présentation. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir.